création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Elle a erré dans les rues de Paris. Elle en disait « Je m'étais sentie regardée autrement, car sans le savoir, j'empiétais alors sur le territoire des sans-lieux. La rue, entre 3 et 5 heures du matin, était l'heure. J'étais devenue une proie à chasser. » Quand nous rentrons dans nos appartements, nos maisons, nos abris, nous sommes protégés de ces petites heures acides qui reflètent notre fragilité. Ce soir, elle nous entraîne avec une autre question. Comment trouver un minimum de liberté intérieure ou le sentiment d'avoir une place dans le monde entre des murs, et même entre ceux d'une cellule de prison que l'on n'a pas le choix de quitter ou d'habiter. Les heures à soi. Nathalie Sabat, Christine Robert. Création On Air.
Parce qu'il faut le sortir de... Non, ça va. Celui-là, je l'ai. Je m'en sers beaucoup de celui-là. J'ai toujours des grelots aux chevilles. Ça vient du Brésil, c'est juste des bouchons en plastique. Ça fait le bruit de l'eau, c'est assez bien.
C'était quel angle il avait marqué ?
Petites chaussures d'été avec des brides.
Quel angle il avait marqué ?
Bonnet.
Il y a plein de détails. C'était pour aujourd'hui ?
Oui.
Oui, mais je dois être en train. Je dois être en train. Je dis pas de bêtises.
Je les vois, moi.
Vous les voyez où ?
Là, il me semble.
Ah oui, je suis en train. Vous les aurez tout à l'heure. C'est là ?
Non, à côté.
C'est là ?
Oui, ça doit être.
Je suis en train.
Ça doit être ça. Oui, c'est ça.
Oui, c'est ça. Je suis en train. Vous les aurez. Oui, non, non.
Ok, il
n'y
a pas
d'importance.
Ok, merci beaucoup.
Je suis en train de les faire.
D'accord. Au revoir. Monsieur.
Au revoir, madame. m'appelle Jacques, Jacques Benoît, on m'appelle souvent Jacques, mon nom de famille c'est Benoît. Je suis cordonnier, je suis né dans la rue où je travaille, je suis né à 72 ans et je travaille toujours étant indépendant, je fais un peu ce que je veux. Donc je suis né un jour de fête, le 1er janvier 1946. Et mon père était déjà cordonnier depuis 1926 dans la même rue. Donc j'ai repris en 69 la continuité de l'entreprise qui se contentait d'un seul ouvrier, donc mon père. Et puis donc on était deux pendant quelques années. Et puis après j'ai bougé un petit peu dans la rue parce que j'ai bâti mon atelier devant le pavillon auquel j'habitais. Et donc j'ai bougé d'une centaine de mètres, mais j'ai pas quitté la rue la rue Stalingrad. Finalement, je connais beaucoup de gens, des très 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 vieux clients, des clients bien avant qu'ils naissent d'ailleurs, des familles qu'on a depuis 70 ans, quoi, hein, depuis les années 30. Je les appelle toujours le nom d'origine de leur famille. Exemple, si c'est mon nom, c'était Benoît. J'appelle toujours les arrière-petits-enfants Benoît, alors qu'ils sont plus du tout Benoît. Ils portent un autre nom. Mais ils savent qu'ils portent le nom de leur grand-père, leur arrière-grand-père. Bon, c'est le charme de connaître les gens depuis un petit moment, quoi. Et puis, là, on est en 2016. Je tape toujours sur les chaussures. 2018, vous voyez, je ne sais même plus où j'en étais. Hein, je ne suis pas pressé de vieillir. Donc en 2016, j'avais 70 ans. Maintenant, j'en ai 72.
Sur les quais de la Seine. Moi, j'ai vécu mes 17 ans sur les quais. Même un super décor hein, pour une SDF. T'as vu ? T'as le décor. Voilà. Ça va tomber. Attention. De rue que j'ai fait, j'ai à peu près passé 10 ans sur ces quais là, entre ici, donc là on est à Châtelet, jusque Jussieu, de l'autre côté de Notre-Dame, tout ça quoi, tous ces quais là qui étaient des lieux privilégiés pour un peu se cacher, mais aussi pour être à l'abri de la pluie avec les ponts. Mais c'est à double tranchant parce que c'est aussi là où il y avait tous les SDF et il y a beaucoup de viols qui ont été faits sur ces quais de Seine. Donc moi, à chaque fois que je reviens ici, ça me rappelle ma vie de rue. Mais il y a des bons souvenirs, il y a des mauvais, il y a un petit peu de tout, quoi. C'est pas que des mauvais souvenirs, il y a aussi... des bonnes crises de rire le soir quand tout est beau, quand tout est éclairé. On a de la chance d'être à Paris et que c'est super joli. Et puis cette nature aussi, enfin, l'eau et tout ça, ça sort du bitume pur du SDF. Quoi. Puis on voit passer les bateaux mouches où on se moque des touristes. Mais pour moi, ce lieu, c'est important, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « Pourquoi t'as pas déménagé ? Pourquoi t'es pas partie voir de la mer, à la montagne ?» Mais moi, je suis attachée à ces quêtes saines, en fait. Même maintenant que je suis sortie de la rue, je reviens souvent ici. Même avec mes enfants. C'est bien là, ça résonne. Ah, tu peux crier là. Nous on faisait des concours de cris le soir. On faisait peur à tout le monde.
Ce qui fait se déplacer la route, c'est le rêve. Aussi longtemps que nous rêverons, la route demeurera vivante. C'est à cela que servent les chemins, à nous faire parents de l'avenir.
C'est ma grotte, c'est mon bureau, c'est l'endroit où j'entasse les livres, où je collectionne les histoires, où j'ai mes chemises de toutes les couleurs en fonction des types d'histoires que je vais raconter. Les papiers s'entassent et les livres de partout, mais essentiellement des livres de contes, de mythologie, d'anthropologie, des livres d'images aussi, des livres destinés aux enfants. Je pioche dans tout ce que je peux trouver, les journaux, les livres à caractère scientifique, comme les anciens livres, des livres d'autrefois, j'aime bien. Et puis après, je réadapte, je réécris, je reformule. Donc c'est ici que ça se passe, hein, que je prépare. C'est comme des canevas. Et mon nom, c'est Muriel Bloch. Dans mon bureau, je traque les histoires. J'ai peur de manquer toujours, c'est un vieux truc d'enfance. Et du coup, j'ai besoin d'être dans ma grotte et d'être entourée de bouquins. J'ai du mal à la bibliothèque, j'ai du mal à rendre les livres, tu vois, où j'ai besoin de les crayonner, de les mâcher, tu vois. Donc, c'est une sécurité d'avoir tout ça avec moi. Et ma grande hantise, c'est Fahrenheit, quoi, si jamais... Alors donc... Je crois que je connais beaucoup d'histoires, mais rien par cœur. D'ailleurs, je ne sais pas apprendre par cœur, c'est terrible. Quand il faut que je fixe 2-3 trucs, ça me prend un temps fou.
J'ai l'impression que ceux qui sont derrière toi, ils pourraient carrément...
Je ne sais pas fixer, j'entasse. Je superpose, il y a plusieurs épaisseurs, donc il faut que je sache où sont les bouquins, mais ça, je perds un temps fou.
Il y en a qui sont carrément suspendus dans le vide, là, quand même.
Oui, oui, il y en a qui ont... Bah oui. Et je perds beaucoup de temps à. A priori, je retrouve tout, mais ça demande des déplacements. Oui, ça se fait avec beaucoup de déplacements de livres. Et le bureau est en train de me chasser, je le sens. Parce que là, il y a encombrement, oui. Mais la petite infirmière là, qui vient pour faire des piqûres, là. C'est rigolo de l'entendre parler de l'intérieur, tu vois, quand elle accède à ces malades là, enfin quand elle vient faire des piqûres. Et alors dans mon bureau, elle a dit oh mais ça c'est rien, vous savez moi je connais bien pire, le monsieur qui est obligé d'être sur le palier maintenant parce que il a fait tomber une étagère dans l'entrée et tous les livres se sont écroulés, il peut plus entrer chez lui donc il dort sur le palier.
Oui, juste par vrai du quartier. Alors, bon, je crois que je suis une bleue, là, pas comparée aux histoires qu'elle me raconte des maisons des gens.
Ce qui est intéressant, c'est aussi c'est les mouettes. Enfin, c'est un truc con, mais les mouettes, là, il y en a partout sur la Seine. Et quand tu te réveilles le matin à 2-3 heures du matin, 4 heures du matin, tu as toutes les mouettes qui sont au bord, là, comme ça, qui te regardent, genre, qu'est-ce que tu fais là? Tu ne devrais pas être là. Et là, on arrive à un pont qui est un peu spécial parce que c'est un pont qui est accessible. Enfin, normalement, il ne devrait pas être accessible, mais les SDF se l'ont approprié. On peut rentrer sous le pont. Là, ils ont protégé avec des petites grilles. C'est quoi? C'est des filets. Une sorte de grille filet, mais on peut les escalader facilement. Et voilà, et se mettre à l'abri. Alors, en tant que femme SDF, évidemment, tout ce qui est abri pour éviter les agressions, ben, c'est super utile. Même si on doit faire de l'escalade, ce qui est un peu le cas dans ce pont-là. Voilà. C'est là qu'on rentre. Voilà. Donc moi j'ai passé quand même des années à escalader ce pont-là. Et après dedans on est sur l'eau, à l'intérieur du pont sur l'eau. Donc là déjà pour quelqu'un vienne nous déranger, il faut déjà qu'il soit en bonne forme. Et c'est sympa de vivre sur l'eau en plein Paris. Parce que là, on est à quelle hauteur, Nathalie? On est sous l'hôtel de ville. On est presque sous l'hôtel de ville.
Ouais.
En face Notre-Dame. De Notre-Dame, voilà. De l'autre côté, il y a Notre-Dame. Ça, c'est mon lieu préféré. Parce que c'est là que j'ai habité. Ce qui est bien, c'est que c'est un lieu qui résonne. C'est-à-dire que n'importe qui arrive, tu l'entends arriver, quoi. Alors que si tu te fais agresser dans le métro, tu ne peux pas entendre arriver les gens. Ici, tu peux entendre. Il y a la réverbération sur l'eau, tu as le bruit.
Maintenant, l'avantage d'être dans le quartier, c'est que pour certaines personnes, c'est un point aussi de ralliement quand même. Et ils n'ont pas besoin de donner des chaussures, ils viennent pour parler de choses et d'autres. Hein. De l'émission qu'ils ont vue hier à la télé, comme du match de foot, où ils ont été volés par un pénalty. Ça fait partie du charme de mon boulot, parce que moi je peux me permettre, tout en continuant de travailler, de les écouter et puis de donner mon avis, les voix. C'est vraiment de l'artisanat qui se mélange avec le commerce, parce que j'ai une boutique, on voit beaucoup de gens c'est très très enrichissant. Tout ce que je sais, c'est mes clients qui me l'ont appris. Hein, parce qu'il y en a un qui a été en vacances à tel endroit, il m'a raconté comment ça se passait. Et comme ça, je sais comment ça se passe au Vietnam, comment ça se passe en Amérique du Sud. C'est eux qui m'ont fait découvrir tout. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour eux.
Quand vous êtes de votre boutique, vous voyagez?
Ben, je voyage, c'est surtout que j'apprends. J'apprends ce qui se passe à côté. J'apprends comment ça se passe dans les entreprises, qu'est-ce qui se passe. J'ai pas besoin de réseaux sociaux, là. Je veux pas passer mon temps là-dessus. Hein. Et mes clients me racontent tous leurs petits problèmes. C'est sûr qu'un jour ou l'autre, ça se terminera, parce que moi, je sais que je suis pas immortel. Hein.
Et heureusement, et tant mieux.
C'est l'histoire de deux grenouilles. C'est l'histoire de deux grenouilles au Japon. L'une habitait Osaka, la ville olympique, et l'autre, la ville de Kyoto, la ville impériale. Ces deux grenouilles ne se connaissaient pas, mais la grenouille d'Osaka rêvait un jour d'aller à Kyoto, dans la ville impériale. De son côté, la grenouille de Kyoto rêvait de découvrir le port d'Osaka. Et quelque temps plus tard, le même jour, à la même heure, les deux grenouilles se mirent en route. Il y avait du chemin à faire, mais elles sautaient de joie, celle d'Osaka d'arriver à Kyoto et celle de Kyoto d'arriver à Osaka. Au bout de quelque temps, épuisées, les deux grenouilles arrivèrent au même moment au pied d'une montagne. Et les deux eurent exactement la même idée, escalader la montagne pour voir au loin le chemin qu'il leur restait à parcourir. Arrivées au sommet de la montagne, les deux grenouilles se retrouvèrent face à face et elles se présentèrent, celle d'Osaka avec son rêve de découvrir Kyoto et celle de Kyoto qui voulait tant voir Osaka. Elles sympathisèrent et, comme elles étaient bien fatiguées, solidaires, chacune aida l'autre à se tenir sur ses pattes arrière pour voir le chemin qui lui restait à faire. Or, les deux avaient oublié qu'elles avaient des yeux derrière la tête. Si bien que la grenouille d'Osaka qui espérait voir Kyoto découvrit Osaka. Et la grenouille de Kyoto qui espérait voir la mer, le port, découvrit Kyoto au loin. Elles se laissèrent redescendre toutes les deux, terriblement déçues. À quoi bon avoir fait ce long voyage si Osaka ressemble à Kyoto et Kyoto à Osaka? Au pied de la montagne, les deux grenouilles se saluèrent et chacune rentra chez elle. Et elle y resta, persuadée que les deux villes se ressemblent et qu'il était inutile de faire ce long et fatigant voyage. Mais si vous connaissez le Japon, vous savez bien que Osaka et Kyoto ne se ressemblent pas.
Quand j'écoute la radio, d'abord, c'est pour pas l'écouter. Il y a toujours une machine qui marche. Alors elle marche très fort. C'est bien qu'en face, ils l'entendent, mais moi, je l'entends pas. C'est vrai, le silence, c'est un métier où le silence, ça n'existe pas, quoi. Hein?
S'échappe pas, celui qui fait chat à Sacha. C'est pas que je me défile, que je me débine, mais il faut que je file un coup de fil à ma sœur Mélissa pour savoir si elle sait tisser tous ces tissus-là. Tu sais tisser tout ça, toi, tous ces tissus sans dessus dessous. Tu sais tisser tout ça, toi, ma sœur Mélissa.
Devant un magasin de glace très 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 connu et très 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 bon, Sauf que moi, quand j'étais SDF, je ne savais pas. Et les gens passaient leur temps à m'offrir des glaces de là-bas et moi, je les jetais par terre. Parce que je trouvais que c'était pas bon. Et en fait, j'ai su après que c'était une super marque et que j'aurais pas dû faire ça, mais voilà.
Et pourquoi tu les jetais ?
Parce que j'aimais pas. C'était trop stylisé, machin, avec des goûts trop bizarres. J'aime bien les choses simples. Toi, tu me fais vanille chocolat, je suis contente, quoi. Là, c'était vanille à la mode pécan mélangé avec du jus de je sais pas quoi. C'était comme ça, c'est quoi ce goût bizarre ? Et je suis vraiment, peut-être 2 ans après, hein, je suis sortie de la rue, que c'était une super marque. Bon, c'était un détail, mais ça fait partie des clés aussi. Parce qu'il y a aussi les commerçants, il y a aussi les gens qui essayent d'aider les SDF. Hein. Et là, on arrive à Notre-Dame, avec le beau jardin de Notre-Dame. C'est pareil, dans le jardin de Notre-Dame, tu peux escalader la nuit et dormir là-bas. Voilà. Ouais, le jardin qui est en face. On est à l'arrière de la cathédrale.
Proverbe arménien. Va mourir, reviens, je t'aime. Pars, meurs et reviens. Thank you.
Dans tous les pays, en tout cas en Europe, on trouve des personnages qu'on appelle les fous sages. On les trouve dans la ville anglaise de Gotham, on les trouve dans la ville allemande de Schilda ou en Pologne, dans la ville de Chelm. Ceux de Schilda sont bien connus pour avoir raisonnablement choisi la bêtise, car ils étaient tellement réputés pour leur intelligence qu'ils étaient sans cesse sollicités. On leur demandait des conseils, ils devaient quitter leur maison, leur famille, et leur petite ville de Schilda se trouvait ainsi désertée, privée de ses intelligences, de ses hommes. Et ça ne pouvait plus durer. Les femmes s'en plaignaient, les enfants pleuraient. Alors, les gens de Schilda trouvèrent la solution. Cette grande intelligence qui était la leur, il fallait s'en débarrasser ou du moins faire en sorte qu'on ne les sollicite plus. Alors ils décidèrent de devenir bêtes. Et comme ça, plus personne ne viendrait leur demander conseil. Ils feraient tout de travers et ils seraient heureux, tranquilles chez eux à Schilda. En tout cas, il leur arriva bien des aventures. Et ces aventures sont assez proches des habitants de la ville de Chelm, ces fous sages, qui disaient que eux n'étaient pas fous, mais qu'il leur arrivait des choses folles. Celui qui est de Chelm, il reste à Chelm. Un jour, un homme acheta un corbeau au marché parce qu'on lui avait dit qu'un corbeau, ça vivait 200 ans. Alors il en acheta un pour voir. Cet audacieux s'appelait Schmil. Il était marchand de schmol, c'est-à-dire de graisse d'oie, dans la ville de Chelm. Il n'avait jamais quitté Chelm. Il était né à Chelm. Il s'était marié à Chelm et ses enfants grandissaient à Chelm. Et il ne quittait jamais sa boutique de graisse d'oie de Schmolz. Mais à passer ses journées dans sa boutique, Schmil avait des rêves et des rêves de voyage. Il voulait découvrir le monde et il ne savait comment faire. Un jour, un de ses clients lui avait parlé de la ville de Varsovie, la capitale, de ses richesses, de ses splendeurs, de ses boutiques. Alors, Schmil se mit à rêver à la ville de Varsovie. Après tout, il habitait rue de Varsovie à Chelm. Alors, sans rien dire à personne, surtout pas à sa femme ni à ses enfants, un matin, casse-croûte en poche, bagel avec à l'intérieur quelques harengs et des oignons, il se mit en route pour découvrir Varsovie. Lui qui n'avait jamais quitté sa ville, c'était simple, pas besoin de plan. Il lui suffisait de continuer rue de Varsovie, tout droit, toujours, toujours, toujours tout droit. Bientôt, il quitta la ville et il se retrouva dans la campagne. Et ça commençait déjà à le fatiguer. La vue des champs, des vaches. Il vit un arbre et comme c'était midi, il décida de se reposer un peu. Pour reprendre des forces, il avala son casse-croûte. Puis, juste avant de s'endormir, il se dit « J'ai déjà marché un bon moment, comment savoir, en me réveillant, si je suis dans la bonne direction ?»
il eut une idée de chemise, il ôta ses chaussures et il mit le bout de ses chaussures dans la direction de Varsovie et le talon dans la direction de Chelm. Comme ça, au réveil, il n'aurait qu'à suivre ses chaussures. Et il s'endormit confiant. Il rêva. Et pendant que Schmil rêve, voilà que passe le facteur. Il aperçoit Schmil endormi, il voit les chaussures. Le facteur s'arrête, il essaye la paire de chaussures, mais elle est tellement usée qu'il choisit de ne pas les emprunter et il les dépose là où il les a trouvées. Mais ce faisant, le facteur met le bout des chaussures direction Chelm et le talon se trouve du côté de Varsovie. Plus tard, Schmil se réveille. Il met ses pieds dans ses chaussures et confiant, il continue son voyage vers Varsovie. Bientôt, il arrive dans une rue, il s'aperçoit qu'il est arrivé déjà dans une première ville. Il demande aux gens dans la rue « Où suis-je ?» Et les gens lui répondent « À Chelm. »« Chelm ?» Schmil est tout surpris. Il demande comment s'appelle la rue, rue de Varsovie. Alors, il réfléchit et il se dit que probablement, sur le chemin de Varsovie, il y a une autre ville qui s'appelle Chelm aussi. Et d'ailleurs, à regarder les gens dans la rue, il ressemble à son Chelm, à lui. Alors, il va jusqu'à sa boutique et il y a là sa femme qui l'attend en lui demandant où il est passé. Et là, il dit « Attention, attention, je ne suis pas celui que vous croyez. Moi, je suis Schmil de Chelm 1 et ici, je suis arrivé à Chelm 2. Le monde est bien fait. » Et là, sa femme se dit, mais il est déjà paresseux, le voilà qui devient fou. Mais qu'est-ce qui lui arrive avec Chelm 1, Chelm 2? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il voit ses enfants et il les salue aimablement en disant, ah, vous ressemblez au mien. Décidément, à Chelm 2, il y a une femme comme la mienne et des enfants comme les miens. Le monde entier n'est qu'un grand Chelm.
En fait, tu peux escalader les grilles, mais c'est un peu comme les dispositifs anti-SDF qu'ils ont mis maintenant. Il y a pas mal de pointes, il ne faut même pas se planter, quoi. Mais tu peux passer au-dessus, tu vois. Parce que cette grille-là, ça fait ça, chaque. Tu refermes. Mais bon, ça va, ça... tu te mets à deux, tu fais la porte échelle, c'est bon. Hein. T'arrives, hein. C'est quand tu es tout seul, c'est un peu dur, mais à deux, ça va. Dans le parc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une rangée d'arbres avec des bancs en dessous, ce qui permet d'avoir un peu plus de noir pour dormir. Parce que quand tu dors dehors, tu n'es jamais dans le noir complet, en fait. Tu as toujours plein de lumière partout. Et tu as beau dire, c'est la nuit, je dois dormir, mais en fait, c'est un peu la même lumière. Alors que là, si tu te mets en dessous les arbres, la lumière, elle est plus foncée. Et tu arrives à mieux dormir. Mais bon, tu dors deux, trois heures toutes les nuits, c'est tout, quoi. Parce qu'après, voilà. Parce que malheureusement, on n'est pas en sécurité, quoi. Cet arbre-là, tu as tout le feuillage qui fait foncer, puis tu entends les oiseaux et tout ça. Donc, c'est sympa. Enfin, moi, j'aime bien. Ça fait Paris, la poésie de Paris, quoi. Bon, j'ai des copains qui montent dedans. Regarde. Il est facile à monter. Donc, ils prennent pour des singes. C'est juste pour jouer, parce qu'on est aussi des grands enfants, hein. Donc là, il y en a un qui dort, l'autre qui monte, l'autre qui saute sur celui qui dort. Enfin, on s'en sort pas. le quai de Seine qui est là, il est fermé, parce qu'en fait, il fait partie du parc. Donc en fait, les gens ne viennent pas pendant la nuit ici. Voilà. Donc c'est notre quai de Seine, à nous. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. On arrive devant l'île Saint-Louis, où il y a plein de ponts et la Seine se divise en deux. Et ce qui est important, c'est qu'en été, l'île Saint-Louis, la petite pointe où il y a des arbres, là, et ben, c'est plein de monde. Ça piaille et tout. Plein de gens qui croient qu'ici, c'est la super zone touristique et bourgeoise pour faire la fête. Et nous, on est toujours en face, en train de dormir et... des fois, même on surveille qu'il n'y ait pas d'accident, en fait. Parce que souvent, les gens boivent et se retrouvent dans la Seine, quoi. Donc j'ai des amis à chaque fois qui plongent et qui vont sauver 2-3 personnes en passant.
C'est compliqué, la fois.
La compagne la plus fidèle, c'est ma valise noire qu'une amie, femme de cirque, m'avait conseillée parce que tu peux tout mettre. Et j'emmène toujours des instruments de musique. Et dans la valise, il y a toujours des choses annexes parce que je ne sais jamais. Tu vois, j'ai peut-être besoin d'un tissu là où je vais me trouver. Le mur va être dégueulasse ou le... J'ai besoin d'un cadre quand même. Et à la différence des gens de théâtre qui ont la boîte noire, ou moi, quelquefois, il faut que j'installe un peu l'endroit. Les gens ne savent pas toujours bien comment te recevoir. Donc, ma valise est systématiquement pleine. Et puis, au cas où, j'y glisse un ou deux livres de survie, quoi. Parce que, va savoir, peut-être qu'il va falloir changer son fusil d'épaule, que je sais pas. Donc, la valise est toujours pleine, ouais. J'emmène un peu mon chez-moi ailleurs. Chez toi, voilà. Mais tu sais, même pour traverser la rue, hein, j'ai un sac plein. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Je ne sais pas, voyager léger, par exemple. Je crois qu'il n'y a pas de stage qui existe pour ça. Et plus les années passent, et plus j'ai besoin de choses avec moi, et qui ne sont peut-être pas utiles, mais et souvent j'en ramène, tu vois, glaner, ramasser, tout ça, ça m'est assez familier. Donc la valise est toujours très lourde. Tu vois, les poches latérales, c'est pour les livres. C'est une valise à double fond, c'est magique cette valise-là. Alors évidemment, elle est à roulette parce que c'est insoulevable sinon. Je commence par mettre les histoires pour ne pas les oublier au cas où. C'est un peu comme des antisèches de mauvais élèves, mais... Puis après, je vais y mettre une percussion, un tuyau, un sifflet. Oui, voilà. Oui, ça c'est le tonnerre.
c'est bien le tonnerre parce que ça, ça permet de, d'attirer l'attention, puis ça sert de micro, tu vois.
Je peux m'en servir comme un micro. Ça, je l'aime beaucoup, il vient du Brésil.
Alors ça, souvent, c'est des instruments dont les musiciens qui m'accompagnent se servent. Mes percussions, et tu vois, elle est pas, c'est un congoma qui n'est pas accordé. Lui, il va l'accorder et c'est lui qui va en jouer. Mais c'est moi qui le transporte quand même. Voilà. Et puis, chaque histoire a un monde sonore avec elle. Donc, il faut penser à quel type d'accompagnement. Ça, c'est un cycle, ça vient d'Éthiopie, ça. Le tuyau rouge que tu as près de toi, c'est pour chasser les mauvais esprits. En général, je commence par ça. Surtout avec les enfants, c'est important pour moi de chasser les mauvais esprits, de nettoyer l'endroit et de faire que les fantômes se tiennent à distance, parce que les murs ont des oreilles. Et voilà, ça, ces tuyaux, je les aime beaucoup. Il y en a toujours un au fond de la valise.
Alors là, on est au marché aux fleurs, qui est un, donc, un petit endroit privilégié dans plein cœur de Paris où on vend des plantes et des arbres un peu. Bon, il y a toutes de base, des géraniums et tout ça, mais il y a un peu des arbres un peu exceptionnels. Ici, il y a tout le thym, tout ce qui sont bons, le sud de la France. Ça rappelle plein de choses. Et c'est très joli. Ça, c'est du coup des coquillages.
Allez voir la fleurisse un peu plus. Je pense que c'est plus chez les fleurisses exotiques.
Est-ce une histoire ancienne, une histoire d'aujourd'hui? Dans la ville d'Ispahan, dans la lointaine Perse, il y avait un paysan qui faisait toujours et encore le même rêve. Il habitait une petite maison. Sur la façade de sa maison, il y avait un cadran solaire à demi effacé qui indiquait juste l'heure de midi, l'heure de faire la sieste à l'ombre d'un figuier. Et pendant les heures de la sieste, Haroun faisait toujours le même rêve. Il se voyait marchant vers une vaste cité, une cité magnifique. Le long des rues, il marchait parmi des boutiques de fruits, d'épices, des échoppes de cuivre, de tissus multicolores. Au loin se dressaient des minarets, des dômes, des palais de couleur d'or. Et dans son rêve, il contemplait toutes ces richesses. Et il avançait parmi la foule. Et dans son rêve, il arrivait jusqu'à un pont au-dessus d'un fleuve. Et sous ce pont, l'attendait un coffre ouvert, un coffre rempli de merveilles, de pierres précieuses, un trésor.
Et à ce moment-là, dans son rêve, il entendait une voix qui lui disait « Tu es ici dans la grande cité du Caire en Égypte. Ce trésor est pour toi. » Et il se réveillait. Oh, ce rêve, il tentait de le chasser, il ne voulait pas y croire, mais le rêve revenait chaque jour, à l'heure de la sieste, à l'ombre, sous le figuier. Alors un matin, Haroun se mit en route. Il se mit en route pour vérifier si le rêve était vrai. Et le voyage fut long et périlleux. Enfin, quand il arriva à la grande cité du Caire, elle était exactement comme il l'avait vue dans son rêve. Les mêmes ruelles sous ses pas, la même foule, les mêmes échoppes, les minarets au loin, les dômes, le fleuve et le pont. Le pont cassera l'île, le fleuve qui coulait en dessous, le Nil, et tout au bout du pont, la place Tahrir, comme dans son rêve. Alors Haroun s'avança sous le pont et il chercha fiévreusement où était le coffre avec le trésor qui l'attendait. Mais il eut beau chercher, il ne trouva rien. Des jours et des jours, il enlevait pierre après pierre pour découvrir le coffre, mais il n'y avait rien, absolument rien, aucun trésor. Alors désespéré, Haroun se dit à quoi bon vivre maintenant. Et il voulut se jeter dans le Nil au moment même où il enjambait le parapet pour se jeter dans l'eau du fleuve. Un mendiant lui retint le pied et lui sauva la vie. Pourquoi voulais-tu mourir ? Et Haroun raconta son rêve. Ce rêve qui n'était que mensonge. Le mendiant l'écouta en riant. Tu es un fou, toi. Un fou d'avoir écouté la voix de ton rêve. Si moi, je devais en faire autant. Figure-toi que très souvent, j'ai fait le rêve d'une maison au loin, dans les faubourgs de la ville d'Ispahan. Cette maison avait un cadran solaire sur la façade et puis un figuier et sous le figuier, un trésor qui m'attendait. Mais moi, je ne suis pas comme toi, je n'écoute pas mes rêves. Haroun le remercia et il ne dit rien. Ensuite, il retrouva toutes ses forces pour courir jusque chez lui. Le voyage était long. Il avait l'impression d'avoir des ailes sous les pieds. Et arrivé chez lui, il ne poussa même pas la porte de sa maison. Il s'empressa d'aller chercher une pelle et il se mit à creuser sous le figuier. Et là, Haroun trouva sous les racines de son figuier un immense trésor.
Ça parle quoi, ça? Signe qui est de la Corse, c'est au bout. Ça va? C'est au bout de la rue, ouais. D'accord. Merci beaucoup. Hein.
Pardon. Ça, c'est du jasmin, ça sent trop bon. Là, c'est mon arche de Noël. C'est tout beau, il y a plein de couleurs. Toi, quand tu vis dans le sale, sur les quais, tu es dans la saleté physique, tu es dans la saleté morale. Et là, tu arrives, bah, ça fait du bien. Voilà. C'est des couleurs, ça jaillit dans tous les sens. Tu as des petites statues et tout. Enfin, c'est super joli, quoi. Moi, je pourrais acheter tout ça. Moi. Si j'étais riche, j'achèterais tout ça. Et ça, c'est un truc que moi, j'avais l'habitude de venir visiter tout le temps. histoire de prendre un peu de nature, mais de jolies, enfin, il y a des jolies choses, quoi. Il y a plein de petites sculptures, il y a plein de couleurs, il y a des fleurs de toutes les couleurs. Et pour moi, c'était important de garder cette idée du beau, en fait, de chercher de la beauté. Et alors, il y a aussi dedans, il y a aussi des anges en petites figurines. Et les anges, pour moi, c'est important. Quand j'étais dans la rue, je trouvais des anges sur le sol. Et jusqu'à maintenant, j'en trouve toujours tout le temps. Donc voilà, c'est un truc qui me suit. Et dans ce marché, il y a des magasins où ils vendent des anges. Et évidemment, je ne pouvais pas les acheter. Hein. Alors, quelquefois, j'en volais, mais je ne dis pas. Et mais sinon, je les regardais. Et même encore maintenant, quand c'est Noël, tout ça, je viens en chercher. Quoi. Vraiment, ici, c'est un lieu ressource pour moi. Ça a été pendant que j'étais dans la rue et ça y est encore maintenant. Voilà. C'est vraiment important pour moi, ça. Et puis, on reste pas loin des quais. Hein. On est toujours là, on tourne autour des quais. Hein, mais on est, voilà. Donc, tout ce quartier, c'est vraiment important.
C'est dommage, t'as pas l'odeur, parce que ça sent super bon. Tu sens l'odeur, Nathalie?
Oh là, oui.
Ça change. Ça sent bon. Hein. T'as vu, il y a plein d'orchidées, des grosses, des petites, de toutes les couleurs. Alors toi, moi, avant, je connaissais même pas les noms des fleurs. C'est en force de venir ici, je regardais les étiquettes et tout. Ça me remplit, ça me remplit.
Les heures à soi. Un documentaire de création de Nathalie Sabat, réalisé par Nathalie Salle. Un grand merci à Anne Lorient pour ce retour sur les lieux de son passé, ainsi qu'à Muriel Bloch, conteuse, et Jacques Benoît, cordonnier, qui ont partagé avec nous l'intimité de leurs lieux respectifs. Merci aussi à John Mota pour son accompagnement musical. Un merci tout particulier à Irène Omelianenko pour sa confiance.
Ouvrez bien vos oreilles.
Prise de son extérieur, Benjamin Thiot. Prise de son studio, Catherine Dereté, mixage Bruno Mourlan, attaché de production Shushan Jergaïan, coordination Irène Omelianenko. Création en air 2018.
Cette émission est disponible en podcast un an et réécoute éternelle sur le site de France Culture. Demain, ce sera l'atelier de création radiophonique et Valérie Favre nous conduira avec Christine Robert dans le pays de ses rêves, en compagnie d'une araignée. Et tout de suite, les nuits de France Culture avec Philippe Garbi.
France Culture, l'esprit d'ouverture.